Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 70e épisode Michèle Beltrand. Nous allons à Paris, en France, et elle va nous parler de la puissance du changement et renouvellement continu. Donc tout un thème, je pense que ça va être passionnant, comme tous nos invités qui viennent partager leur expérience et leur parcours personnel. Donc avant tout, bonjour Michèle, comment vas-tu ?
Très bien, très contente d'être ici avec toi, Jo, merci l'invitation et merci de ton écoute.
Écoute, c'est super que tu sois là et nous aussi on est ravis que tu rejoignes ce podcast. Au passage, on fait un petit clin d'œil et un remerciement à Emmanuel Lewartowski que vous pouvez écouter à l'épisode 34 qui présente l'accompagnement à l'écriture et pour nous avoir mis en relation. Mais pardon Michèle, d'abord c'est à toi. Comme tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Michèle, c'est à toi. Raconte-nous tout ça.
Ben, merci encore, Jo. Alors, moi, j'ai une vie un peu mouvementée avec beaucoup de changements et de déménagements. Mais grosso modo, je suis franco-mexicaine. Je suis née à Mexico et j'ai grandi au Mexique. Et comme peut-être tu le connais aussi, on a tellement de couleurs, des lumières, des formes qui sont tellement puissantes dans notre environnement, dans la culture, dans la cuisine, l'artisanat, etc. Évidemment, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les espaces, donc l'architecture, ce qui nous entourait. Et aussi, ma mère a eu la grande idée de m'inscrire à la danse depuis que j'avais 3 ans. J'ai jamais imaginé que ça allait devenir une très très grosse passion. Moi, je voulais être danseuse. J'étais vraiment vraiment à fond pour la danse. Et je savais pas à l'époque, quand j'avais commencé, que c'était aussi lié à l'architecture. Parce que justement, quand tu fais un spectacle de danse, tu crées une histoire, tu crées un scénario, tu crées comme un univers parallèle de la mise en scène, etc. Et tu le vis et tu le racontes quand tu fais un spectacle de danse. Mais de toute façon, le quotidien de la danse, toute cette discipline de répétition, d'engagement et des fois un peu masochiste, d'avoir même mal partout ou les pieds
souffrent beaucoup.
Voilà, ça n'empêche pas de cette énergie qui te met en mouvement et qui te bouge pour exprimer des émotions, une histoire, bon, plein de choses. Et donc, j'avais fait ça pendant 20 ans jusqu'à ce que je me suis cassée à la cheville quand je suis arrivée à Paris. Mais bon, on va y revenir. Mm-hmm. Mais en fait, bon, la danse, c'était vraiment presque toute ma vie quand j'étais enfant et adolescente à Mexico. Et puis, en même temps, il fallait à un moment donné choisir une carrière professionnelle. Et pour moi, l'architecture était comme une évidence, en fait. Je ne me voyais pas faire autre chose que ça avec la danse, non ? Donc, j'ai commencé mes études d'architecture à Mexico. Et puis, j'ai eu une première bourse pour Montréal. Donc, je suis partie à Montréal. C'était génial de voir la vie, de vivre la vie autrement, dans un autre contexte, dans un autre... une autre façon de voir le monde, donc se réadapter, se connaître, apprendre et aussi renforcer qui on est, ou commencer à renforcer qui on est. Et j'ai fait aussi de la danse à Montréal. Et ce qui était incroyable, c'est que je ne savais pas que quand j'étais à Montréal en 98, c'était la pire tempête de l'histoire.
De neige,
c'est ça ? Oui, au Canada. Et donc, mais pour moi, c'était tellement nouveau et fascinant que... Ben voilà, je l'ai traversé, je ne savais pas que c'était aussi marquant pour l'histoire, mais voilà, donc j'ai survécu la tempête de 98 à Montréal.
Ça veut dire, excuse-moi de t'interrompre, ça veut dire que tu es parti d'abord, donc tu as commencé tes études à Mexico, tes parents t'ont envoyé d'abord au Canada, c'est ça, pour faire tes études, d'abord en France hein.
D'abord au Canada, mais d'abord c'est pas eux qui m'ont envoyé, en fait, eux ils ne voulaient pas que je parte.
Oui, ça c'est un classique.
Oui, j'ai eu plutôt une bourse et ils étaient Ils n'avaient pas trop le choix, en fait.
Oui.
Ma famille est une famille très conservatrice, très traditionnelle et tout. Et donc, c'est vrai
Laisser partir
que
leur fille, c'est
leur
pas évident.
fille
Oui.
qui veut partir, c'est pas très, très bien pris. Mais bon, je suis
Ok.
partie quand même.
Ok, ça c'est bien.
Donc, et puis, bon, après, c'était un échange à Montréal. Donc, je suis revenue à Mexico. Et puis, tout de suite après, il y a eu une proposition pour une bourse pour venir à Paris. Et
Cadre
donc, j'ai fait le concours et...
de tes études d'architecte alors, hein, toujours
Oui,
le
toujours
chemin.
d'architecture. Ouais. Et donc, il y a eu un concours. Donc, j'ai fait le concours et j'ai eu la bourse. Et je suis venue à Paris. Et ça, c'était en 99. Donc, j'ai aussi eu le droit à la tempête de décembre 99. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était assez ravageant en
J'étais où en
France. Donc,
99?
voilà.
Je sais plus où j'étais en 99, peut-être. Ah oui. Ok. Donc, tu affrontes les éléments à chaque endroit où tu vas.
Oui, en fait, je sais pas. Après, mes parents, des fois, disaient que j'emmenais le. Comment tu appelles ça? Des ouragans ou que j'allais, mais bon. Donc, voilà. Et par ailleurs, juste après la tempête, je me suis cassé la cheville, juste en marchant,
Ok.
sur la rue Bonaparte à Paris, quand j'allais au musée du Louvre,
Aïe.
un jeudi, c'était un jeudi, un jour d'école et tout. Et je me suis cassé la cheville, et donc, ça m'a un peu mis un stop pour arrêter d'aller trop vite. Et ça m'a. Moi, je continuais à pratiquer la danse. En m'ayant cassé la cheville, ben, du coup, j'ai dû arrêter pour un bon moment. Et après, honnêtement, je n'ai plus repris comme je faisais avant, parce que pour moi, avant, la danse était une grosse priorité. Mais je l'ai gardée toujours en moi. Ça fait partie de moi, de mon identité, de ma vie et tout. Et puis, du coup, bon, ben, j'ai fait mes études d'architecture. J'ai eu. Comment dire, une chance, mais après on dit que rien n'arrive par hasard. J'ai rencontré Jean Nouvel à la librairie de La Une. Je ne sais pas si tu vois, elle était avant à Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui,
Je
c'est
connais pas trop à Paris, je vais te dire, mais peut-être nos auditeurs, certains amis à Paris connaissent, donc ça peut être intéressant. Donc tu rencontres une rencontre, on va dire, un hasard fortuit.
Ben oui, mais en fait, c'était la présentation d'un livre qu'il avait écrit
Ok.
avec Jean Baudrillard qui s'appelle L'espace singulier. Et donc, ben, je vais le voir. Et puis, il était Jean Nouvel, quoi. Et donc, il me dit, vous venez d'où? Je dis du Mexique. Et il me dit, ben moi, voilà, j'ai un projet au Mexique. Et il me met les coordonnées de l'agence. Donc, quelques jours plus tard, j'envoie mon CV. Et puis, finalement, j'ai commencé à travailler dans l'agence chez
Excellent.
Jean Nouvel. Et du coup, ça, c'était vraiment mon premier job. Et puis, c'était aussi comme un rêve incroyable. Voilà, c'était génial de commencer. On a travaillé sur un. Moi, j'ai travaillé sur un projet au Mexique, à Guadalajara, qui ne s'est pas fait. Mais en fait, ce qui était génial avec Jean Nouvel, c'est que lui, il travaillait énormément la réflexion, le concept, de vraiment que chaque projet ait une histoire, ait une personnalité. En fait, c'était vraiment tout ce travail de donner un vrai sens à ce qu'on faisait. Et ce, malgré si ça se faisait pas, en fait. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui se faisaient pas, mais il y avait tout un travail derrière de réflexion, d'analyse, de personnalisation aussi. Et aussi, bon, à l'époque, bon, j'ai eu plein d'anecdotes par rapport. Bon, je vais te raconter une, mais par exemple, à un moment donné, je me rends compte que j'ai eu un contrat après un an et demi, non, un mois et demi de travail dans l'agence. Et puis, 3 mois plus tard, je me rends compte que j'étais mal payée, dans le
Aïe.
sens que par rapport
Au
à mon
marché,
niveau
de compétences.
oui, au marché, surtout parce que j'avais un bac plus 5 déjà, et puis je parlais les langues, je savais utiliser AutoCAD, monter les logiciels et tout, et je me rends compte, et du coup, je savais pas trop quoi faire. Mais finalement, c'était une de mes premières leçons de vie aussi dans le monde professionnel,
De
aussi aller
négociation,
faire face
faire face à
de
la réalité.
négociations.
Alors,
Ouais, et de
c'est
bon,
super
voilà, donc.
intéressant. Il y a plusieurs sujets pour je regardais en parallèle parce que moi je suis malheureusement peut-être un peu ignare pour nos auditeurs aussi dire Jean Nouvel, c'est Nouvel pardon, c'est un grand architecte français qui a fait par exemple je crois c'est à si, moi j'ai bon souvenir, je crois que c'est à Barcelone à Torre Agbar, c'est ça hein? Au Torre
Oui, c'est
Gloré,
ça.
c'est
Il a
ça.
fait aussi l'Institut du monde arabe,
Ok, ouais.
le Quai Branly,
Ah oui, ok.
le Musée du Louvre à Abu Dhabi,
Et la Fondation
la
Cartier aussi.
Fondation, non, la Fondation des bureaux Richemont à Genève. En fait, il a plein de projets partout.
Ah ouais, et tu vraiment donc c'est quand même pas mal de commencer directement dans une agence avec un grand architecte français. Donc du coup ça t'a porté et on revient un peu à donc cette thématique où tu t'es dit au bout de quelques temps tu te dis mince mais par rapport à mes compétences et mon profil ton expérience tu te dis je suis mal payé donc comment ça s'est passé ce point-là peut-être ça peut être intéressant comment tu t'osais pas trop tu
Oui, c'était en fait comme j'étais à l'époque très jeune et aussi très naïve dans plein de sujets, mais en même temps, c'était ma responsable qui m'a dit c'est pas normal, tu devrais être payé tant et ce n'est pas le cas. Et du coup, ça crée un buzz dans toute l'agence parce
Aïe.
que tout le monde se demandait si j'étais bien payé parce que personne n'en parlait.
OK.
Mais du coup, finalement, j'ai pris mon courage et je suis allée voir la responsable administrative qui, tu vas pas le croire, mais elle avait travaillé au Mexique, à Mexico.
OK.
Et donc, elle m'a dit oui, je me demandais quand est-ce que tu allais te rendre compte
Ah,
que
ça c'est
j'arrive dans son
vache.
bureau.
Ça
Et je
c'est
lui
vache.
dis bon, voilà, je me suis rendu compte. Et puis, et du coup, j'aimerais que ça se régularise. Alors, elle m'a dit, mais tu n'as pas besoin de tant d'argent, tu viens du Mexique.
Oh la
Et
vache.
puis, elle dit, oui, que je viens du Mexique ou de la Lune,
Ouais,
c'est ce qui est mon droit,
exactement, exactement. C'est bien,
non?
t'abordes une thématique super intéressante parce que je trouve que c'est un sujet où on n'a pas encore abordé ça sur le podcast, mais c'est vrai que ce sujet est assez actuel maintenant avec le fait de travailler par exemple en remote, en disant non mais vous êtes payé. Parce que vous vivez dans un pays où le coût de la vie est moins important, mais pour par exemple une société qui est en Allemagne et vous travaillez en République tchèque, hein, je prends un hasard, hein, je veux pas, et que peut-être le niveau, le coût de la vie à Prague est peut-être inférieur à travailler à Munich, pour une agence à Munich, ben, au hasard. Mais c'est vrai de se dire, ouais, mais la rémunération n'est pas basée par rapport à ta situation géographique ou d'où tu viens. Mais par rapport à la qualification et les diplômes que la personne a. Donc, c'est bien que tu t'abordes cette thématique dans le sens où tu dis, oh, on est peut-être un peu naïf. Et en fait, c'est peut-être d'ouvrir la parole, d'aller peut-être discuter, de se dire, ben non, il y a une reconnaissance du rôle. Excuse-moi de ce petit aparté, donc tu remarques, hein, Michel, que Monsieur Joe, des
Non,
fois,
mais
fait
tu
des.
as raison et c'est important, hein, tout à fait. Oui, parce que finalement, moi, je pense que surtout en tant qu'entrepreneur et même une personne
Salarié.
qui travaille en tant que salarié ou autre, c'est important d'investir en soi, dans sa valeur. En fait, c'est-à-dire que tu as une valeur intrinsèque ou que tu fais évoluer et c'est ça qui fait que tu peux, comment dire, avoir un retour sur ta valeur et ça n'a rien à voir comment dire, des choses externes. C'est par rapport à vraiment la valeur que tu apportes. Ce n'est pas le temps précisément ou les
Exactement.
heures ou etc. En fait, je pense que c'est surtout important de travailler personnellement, de connaître sa valeur. Et la valeur existe aussi dans ton engagement, l'investissement que tu mets de ta personne, de la qualité, etc. Donc, c'est un sujet délicat parce que des fois, moi, je me souviens quand. Bon, je vais me sortir un petit peu, mais en fait, quand tu commences à mettre les tarifs pour tes produits ou tes services, etc., tu as des calculateurs sur
Oui,
Internet ou autres
ouais.
qui te disent le forfait par heure, etc. et tout, ou le prix du marché et autres. Et en même temps, je pense que le plus important qu'il fallait faire tout d'abord, c'était de travailler sur sa propre valeur. Quelle est la vraie valeur que tu apportes, non?
Alors, c'est
Et
génial que tu
donc
abordes
ça,
ça. Pardon, vas-y,
oui, et
excuse-moi.
ça c'est super important, sauf que j'ai eu cet épisode-là qui m'a marqué, évidemment, mais ce n'était pas le seul. Hein. J'ai continué à passer à des niveaux supérieurs de difficulté. Du coup, il fallait à chaque fois négocier et tout.
Je pense que tu abordes vraiment le sujet où on a abordé un peu pour les entrepreneurs, pour les salariés. C'est en fait, je pense que tu mets le doigt exactement sur la thématique où en fait, l'évaluation de la valeur intrinsèque d'un bien ou d'une compétence. Je pense, Michel, tu voulais détailler un plus une thématique, par exemple Jean Nouvel, son parcours personnel.
Oui, en fait, parce que je savais pas non plus à l'époque ce que c'était tout cet univers des marques, du branding. Mais en fait, Jean Nouvel, il avait créé des sociétés auparavant, avant que je rejoigne son agence, et il avait fait faillite 5 fois. Donc, je pense qu'il avait le veto administratif de ne plus créer une société parce que, voilà, après 5 faillites. Et donc, il s'est associé avec un entrepreneur avec une vision de business et de développement, mais aussi qui valorisait vraiment le talent de Jean Nouvel. Et donc, il a fait de Genouvel une marque. Et
Ok.
donc, quand il allait vendre, parce que c'était vraiment vendre les projets de Genouvel, c'était, comment dire, il vendait pas un musée ou un immeuble ou un complexe quelconque, il vendait Genouvel. Et c'était la marque Genouvel. Et donc, les tarifs, en fait, pour dire ainsi, ou les tarifs ou l'investissement de ces immeubles avaient mais complètement explosé dans le bon sens. Et ceci a fait que Genouvel avait beaucoup plus de reconnaissance et aussi que l'agence devenait rentable. Après, il y avait le petit couac que, par exemple, Genouvel voulait participer dans des concours d'architecture qui étaient non payants, mais qui étaient intéressants conceptuellement. Sauf que si ça rapportait pas vraiment un
Ouais,
bénéfice
tu...
ou une assurance que le projet allait être fait, c'était non.
Ok.
Donc, c'était aussi, des fois, c'est toujours un équilibre entre ce qu'on veut vraiment faire par passion et qu'on pourrait faire gratuitement les yeux
Ouais.
fermés, et aussi ce qui est important pour que la société soit rentable et que ça fonctionne. Mais ça n'enlevait jamais le talent de ce
D'accord.
qu'apportait Jean à chaque projet.
OK.
Et du coup, je ne savais pas à ce moment-là que ça allait me revenir quelques années plus tard, justement. En lien avec tout ce qui est les marques et l'univers du luxe dont tu parlais il y a quelques instants. Donc bon, bah, je continue. Donc du coup, après avoir travaillé chez Jean Nouvel, j'allais rentrer au Mexique à un moment donné. Et puis finalement, je suis revenue en France avec une autre bourse parce que il y avait un accord entre le gouvernement du Mexique et de la France avec l'École des Arts Déco. L'INSAD à Paris. Et ben, j'ai eu cette bourse pour faire ce post-diplôme en architecture d'intérieur. Et pourquoi l'architecture d'intérieur? C'est parce que j'avais travaillé sur des grands projets de grande échelle qui étaient juste incroyables et tout. Mais moi, ce qui m'attirait, c'était la petite échelle. Comme je parlais au début, quand je faisais la danse, de créer ces univers, c'est comme un monde parallèle où tu as toute une histoire, toute une aventure qui se passe dans l'espace, mais à plus petite échelle, avec beaucoup plus de poésie et de fantaisie ou de plus d'émotion, etc. Donc, j'ai fait le post-diplôme à l'INSAD, en architecture d'intérieur, et là, j'ai commencé vraiment à travailler beaucoup sur la couleur. Plus concrètement, et les effets que la couleur a dans notre vie, mais tout le temps en fait, parce qu'on est entouré de couleurs qui est vraiment
Alors,
une expression de
je
lumière.
suis ravi que tu viennes aussi sur ce sujet-là parce que c'est l'impact des couleurs sur un intérieur et sur le mental de la personne, hein. On sait bien, après peut-être tu me corrigeras là-dessus, les couleurs froides comme le bleu pour calmer ou des couleurs vives pour générer de l'inspiration ou de la dynamique, je ne sais plus, les couleurs rouges et autres, je ne sais pas si tu peux plus nous détailler ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est là où on se rend compte que ben, les couleurs plutôt sombres pour apaiser ou même c'est froid donnent un effet sur le psychique ou sur le mental des personnes qui sont dans cet environnement.
Oui, tout à fait. Du coup, moi, à ce moment-là, quand j'étais à l'INSAT, ce que disons, développé comme approche, c'est que, tu sais, normalement, en architecture, tu as un brief de combien de mètres carrés, des espaces, les fonctionnalités. Et en général, en architecture, tu commences par faire les plans, en fait, pour que ce soit fonctionnel, pour que ça rentre. Tu imagines la forme, etc. Et normalement, on vient mettre les couleurs ou les finitions à la fin. À la fin du projet. Et du coup, c'est comme comment dire, la résultante, non? Et en fait, ce que j'essayais de faire, c'est de définir d'abord quelles étaient, plus que la fonction, quelles étaient les sensations, les émotions que la personne vit dans un espace. Et d'abord, on définit la palette de couleurs et après la forme. Et du coup, c'était quelque chose qui a un peu bouleversé mes professeurs à l'INSAD. Et du coup, ça m'a permis aussi de commencer à développer ma propre méthode, mon approche, justement, de partir, définir depuis le début qu'est-ce que tu veux ressentir dans ton espace. Parce que finalement, on est des êtres émotionnels. On dit qu'on est rationnel, oui, mais surtout, on est très émotionnel et on se laisse guidés par nos émotions, par nos ressentis, et c'est tellement important de les avoir d'une façon, disons, harmonieuse pour notre vie, parce que ça a vraiment, comme je disais tout à l'heure, les couleurs ont un tel impact qui peut être perçu comme positif ou négatif selon le contexte ou la situation, mais on ne peut pas empêcher l'impact. Et donc, autant le faire de façon, comment dire, bénéfique pour nous et d'une façon harmonieuse. À ce moment-là, j'avais commencé à travailler sur ça. Et puis, donc, je voulais me consacrer à travailler plus sur tout cet aspect des couleurs, de création des espaces. J'ai été appelée par une grosse chaîne de médias qui s'appelle Télévisa. Je ne sais pas si tu connais, en Amérique, c'est énorme. Et donc, je vivais toujours à Paris. Et quand je partais en vacances au Mexique, je faisais du conseil pour eux, pour les architectes d'intérieur, les décorateurs, etc., pour leurs telenovelas, si vous voulez, les feuilletons, leurs journaux de télévision, pour aligner justement leurs espaces, la mise en scène, avec la personnalité du présentateur ou du personnage qui allait être mis en scène dans cet espace.
Ah, c'est excellent.
Donc,
Je pense, tu vois, ce genre d'approche, on ne se pose pas la question. C'est vrai que maintenant que tu en parles de l'agencement des couleurs et par exemple des sociétés comme Google, les espaces ouverts avec beaucoup de couleurs pour donner cette espèce de dynamique. Après, je veux pas dire une image jeune et compagnie, mais parallèle entre certaines industries où c'est des bureaux blancs cloisonnés, toujours des couleurs très bleues. Bleu, gris et blanc, très 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 froid, ou donner une image de sérieux, et des sociétés où ils ont des couleurs, ça part dans tous les sens. Donc c'est vrai que, et quand tu dis, ouais, tu as conseillé pour les telenovelas pour mettre en couleur le fond derrière un présentateur, toi, c'est le genre de choses qu'on ne se pose pas la question. Pourtant, la couleur est énormément appliquée sur tous les produits de consommation. Je veux dire, si on va dans le luxe,
absolument, oui.
des voitures de luxe rouges, pour pas les citer avec un cheval cabré ou autre. C'est cette image d'émotion, alors que la majorité des voitures, on va dire un peu plus standard, ça va être toujours ce gris noir, un peu le gris mouette. Mais excuse-moi, mais donc tu as fait du consulting quand tu es rentré au Mexique pour un grand groupe de télévision sur tout ce
Oui.
qui est l'agencement couleur. Et donc ensuite?
Et du coup, je voulais me consacrer à ça, à ce moment-là. Et puis, comme par hasard de la vie, qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai croisé un directeur de l'ESSEC qui, à ce moment-là, était directeur d'un MBA dans le luxe, c'est-à-dire dans International Luxury Brand Management. Et du coup, il m'a dit, c'était en 2007, et il m'a dit, ben nous, on cherche des profils comme le vôtre, et il faut que vous veniez voir, que vous fassiez le GMAT et les interviews pour que vous soyez accepté, etc. Et ça, c'était pas du tout prévu, du tout, du tout. Et du coup, pour faire une longue histoire courte, je l'ai fait, j'étais admise et j'ai fait le MBA. Et là, c'était vraiment comme un peu un choc de culture parce que j'arrive dans la classe et j'étais la seule architecte et je m'étais pas rendu compte que je pense pas forcément que c'était parce que j'avais une formation d'architecte mais apparemment j'avais toute une autre vision et compréhension des choses donc ça faisait trop de contraste mais donc moi en tout cas j'ai commencé vraiment à apprendre et comprendre ce que c'était créer une marque, tout ce qui était le branding, évidemment le positionnement dont je parlais tout à l'heure, comment Jean Nouvel était aussi lui-même devenu une marque, et moi je ne le savais pas à l'époque, mais comprendre tout ce processus de création de marque, de pourquoi le luxe, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas forcément besoin tous d'un stylo à 500 euros, mais pourquoi on va acheter un stylo Montblanc ou un instrument d'écriture, si mes collègues m'entendent?
Alors c'est vrai qu'on salue parce qu'on a quelques, moi je connais quelques gens à Mont-Blanc ici à Hambourg, donc on les salue. C'est vrai que moi-même je ne t'ai pas posé la question, mais on n'achète pas un élément d'écriture, on achète un standing ou un élément. Comment dire, un élément de standing peut-être. Après, voilà, je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis pas trop dans ce milieu-là. Mais le point sur le MBA en International Luxury Brand Management, c'est ce que tu as fait. Ça veut dire que le public qu'il y avait là, c'était plus quoi, des managers, des gens qui, des marketeurs. Toi, tu étais un peu l'architecte, un peu l'ovni, c'est ça? Ou tu...
Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, il y avait surtout, donc ils étaient, je sais pas, comptables ou, je sais pas, d'autres métiers beaucoup plus, entre guillemets, administratifs, d'école de commerce, qu'il n'y a rien de péjoratif. Hein, c'est
Non,
juste un parcours normal, non, traditionnel.
non. Ouais.
Et oui, j'étais comme l'ovni, quoi. Du coup, donc voilà, c'était comment dire, un gros challenge aussi pour moi, parce que justement, ça te force aussi à te connaître et comment dire, et t'accrocher aussi à tes positions. Donc, par exemple, tout ce qui est par exemple, moi, ce que j'appliquais, c'était la méthode scientifique, tu sais, de poser des hypothèses, des
Ouais.
hypothèses, la vérité, etc. Mais je pense pas que ce soit propre à la
OK, il y a ouais, parce
architecture,
que
c'était peut-être ma formation à moi, je sais pas tout.
alors
Mais aussi
tu veux
le
dire
côté
confond
créatif.
tu veux dire confronter une approche rationnelle cartésienne que mathématicienne, si on peut dire, à une approche plutôt émotionnelle de création à ce qu'on associe aux arts, quoi. C'est-à-dire, et c'est vrai que y a besoin un peu des deux, puisque la création a besoin d'être un peu, comment dire, c'est dans de l'émotionnel, dans du vécu. Et bon, le MBA t'a apporté sûrement, j'imagine, les outils, on va dire, cartésiens, comment positionner une
Ben en
marque,
fait,
non, c'est ça? Non?
oui, en fait, c'est que mon approche, justement, c'était que j'avais l'aspect émotionnel et structurel.
Ok.
Parce que dans ma formation d'architecture, les espaces, il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils soient structurellement solides. Donc,
Ouais.
ben, quand je crée un espace, je pense à les structures et aux poutres, à leur épaisseur et au poids, etc. C'est important que ce soit rationnel et en même temps que tu crées l'émotion. Donc j'apportais les deux.
OK.
Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que mes collègues réagissaient beaucoup plus émotionnellement que rationnellement. C'était ça le contraste. C'est, tu vois, c'est
À
comme quoi il n'y
l'inverse.
a pas vraiment
OK.
on a beaucoup d'a priori, oui.
Oui.
Et aussi, il y avait surtout ce que j'ai beaucoup appris dans le MBA, c'était le côté commercial. Parce que, c'est-à-dire que finalement, même si les marques ont tout un univers, etc., le but final, vendre finalement. Et donc, comprendre l'aspect commercial est fondamental. Et même pour un entrepreneur, justement, tu peux avoir les meilleures idées, la meilleure qualité du savoir-faire, etc. Mais si tu ne sais pas le vendre, ben, personne n'aura accès à ce que tu proposes.
Alors
Et donc.
c'est génial parce que tu as tout résumé là en fait en une phrase. Et c'est vrai que c'est malheureusement les meilleures idées, si elles sont pas bien vendues, pas les vendre, ben, ça restera que des bonnes idées, c'est tout quoi.
Ouais, donc tu vois, c'était un peu ça, c'est très intense parce que c'était une année très intensive. On a rencontré plein de personnes qui représentaient les groupes de luxe, de marques, etc. Et en plus, c'était en 2008, la crise
Ah
de
ouf!
2008. Donc il y avait tout ce côté de gel d'embauche,
Ouais.
etc. Et tout. Donc oui, donc c'était assez tendu. Et puis moi, j'ai eu la chance d'être embauchée par Montblanc. Et donc je suis partie en Bourg.
Ah, voilà
Et
le lien avec Hambourg. Ok, parce que j'avais vu sur ton parcours
voilà.
professionnel que tu avais été à Hambourg. Et je dis, c'est marrant parce que on aurait pu se croiser, on va dire, même si on est dans des
Ouais.
industries différentes. Mais bon, la vie est comme ça, elle est faite de retournements et de changements. D'accord. Et ton MBA, tu l'avais fait en quoi? Un an? En plein temps, c'est ça?
Oui, en un an,
Ok. Tu es à
ouais. Et
Hambourg.
puis, bon, juste avant.
Excuse-moi. Donc 2008, tu es à Hambourg, tu es embauché par Montblanc pour, j'imagine, la part quoi. C'est parti lancement de produits ou campagne de produits. Raconte-nous un peu plus comment ça fonctionne, parce que je pense que les auditeurs, même moi, sommes curieux de savoir comment on recrute en fait quelqu'un qui est architecte pour des produits d'écriture.
En fait, c'est que toute marque de retail qu'on appelle, même si c'est du luxe, un retail, c'est-à-dire que tu as des points de vente. Donc, même si auparavant c'était quelque chose qui faisait pas forcément partie des structures des marques, parce que finalement tu dis bon, c'est plutôt le développement produit ou le marketing, la publicité, etc. Mais là, c'est par rapport aux points de vente. Donc,
Ah,
les
d'accord.
boutiques, parfois c'est les stands, les shopping shops. Bon, il y a plein de diverses façons de
Donc
points de vente. Donc moi, je suis rentrée dans. En fait, moi, c'était très curieux parce que je faisais le lien entre ce qu'on appelle le retail design, c'est-à-dire l'architecture, les espaces, le mobilier, et le visual merchandising, qui a à voir avec un peu ce qu'on appelle les. Il y a des gens qui l'appellent ça la décoration, mais c'est la présentation des produits. Et
La mise en scène du
donc,
produit
moi, je
dans un
faisais le
dans
lien.
OK.
Donc moi, je faisais les liens entre eux parce qu'ils ne communiquaient pas forcément bien et moi, je parlais pas allemand. Donc, tu t'imagines.
Tu aimes bien les challenges,
voilà.
je
Oui, donc Du coup, c'était comme dans, j'étais comme dans le film Lost in Translation. Mais bon, c'était aussi très formateur. J'ai dû apprendre aussi l'allemand.
Ok.
Et c'était pas évident.
Ok.
Mais donc, du coup, je suis restée presque 3 ans chez Montblanc et j'ai fait des projets superbes. J'ai côtoyé des gens incroyables aussi, qui restaient aussi des amis. Et donc, c'était une expérience pas facile dans le sens qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de challenges, mais qui était incroyablement formatrice. Et puis, jusqu'à ce que j'étais débauchée par Swarovski. Et donc, je devais partir à Barcelone d'abord, parce que le siège Europe était à Barcelone.
Ok.
Et puis, 4 jours avant,
Que tu pars?
j'emménage, en fait, je prends l'avion. On me dit, non, finalement, on va vouloir que tu sois à Paris. Oui, alors je vivais pendant 6 mois avec mes 3 valises. J'étais à l'hôtel entre Paris et Barcelone et puis les autres villes où je devais aussi me déplacer pour les projets. Et ça aussi, c'est intéressant à réfléchir et intégrer que, comment te dire, peu importe où tu ailles ou que tu sois, tu es toujours toi. Et donc, même si tu n'as pas un lieu fixe, le fait que tu puisses te bouger et te déplacer, si tu es toi, si tu es ancré à toi-même, bah, peu importe, tu vois, et tu peux toujours à chaque fois te recréer ou continuer de t'exprimer. Et je dis pas que ce n'est pas épuisant parce que ça peut l'être, donc de
Ouais.
temps en temps, il faut trouver
Le point
des
d'ancrage,
moments de
ouais.
pause et de ressourcement.
En fait, on se déplace avec son propre environnement et on se recrée son propre environnement sécurisant, si je peux dire. Et donc du coup, tu es entre Paris et Barcelone, combien de temps?
Oui, c'était à peu près 6 mois, voire
Ok. Ah
plus, je
oui.
crois 8,
C'est intensif, hein?
mais finalement, je m'installe à Paris. C'était aussi une époque super, super gratifiante parce que j'ai pu gérer une équipe qui m'a permis de faire, c'était, je crois, c'était 260, non, 370 projets à peu près, je crois,
Ouf.
en 2012,
Ok.
entre ouvertes et rénovation, etc. Et quand l'objectif était 200, donc,
Ok.
et on l'a fait tout ça avec le même budget. Donc c'était vraiment.
Quand tu dis 300 projets, tu dis en combien de temps? C'est des quoi? Des projets de rénovation de magasins, d'ouverture de nouveaux magasins? Ok. Sur combien de temps?
C'était 12 mois.
Ok, sur un an.
12 mois, c'était une année.
Ok, ah ouais.
Oui, c'était beaucoup. Mais c'était aussi un moment où la marque Swarovski était en pleine expansion. Et aussi, j'avais un responsable qui était mon un plus un, qui était aussi très, très entrepreneur, en fait, et qui menait aussi la dynamique. Donc, tout ça, c'est quand il y a une bonne combinaison de personnes, de projets, de moments, etc., c'est ce qui fait que tu peux faire des choses incroyables quand tout le monde est dans la
Dans la même
même.
vague, ouais.
Tant, disons, parce qu'on le dit beaucoup, mais là, c'est le cas et c'était vraiment super. On a réussi à faire plein, plein de choses, mais aussi parce que c'était vraiment un travail en équipe. Il y avait beaucoup de confiance et donc on prenait des risques, on assumait et ça, on avançait, non? Donc c'était vraiment, vraiment super. Et puis, après cette année-là, on me propose de rejoindre l'équipe Europe à Barcelone. Donc, je déménage à Barcelone.
Enfin.
Et enfin, je recommence aussi. À chaque fois, il faut recommencer. C'est mine de rien, il faut que tu trouves ben, la poste, que tu ailles à la mairie, que
Oui.
c'est toutes les démarches. Bon, déjà, je te parle pas de trouver l'appartement, bref,
Oui,
les
ça
déménagements, tout
c'est
ça. Donc, mais bon, après, c'est aussi, ça fait partie de l'émotion du renouveau, des nouvelles aventures, des possibilités qui s'ouvrent à toi, non? Mais j'arrive en Espagne en 2013, que c'était la crise en Espagne.
Aïe.
Et donc, pas facile, le contexte non plus. Et puis, bon, pour faire une longue histoire courte, j'ai finalement revenu, je suis revenue à Paris parce qu'on m'avait proposé un job à nouveau à Paris. Et j'emménage à nouveau à Paris et j'ai un incendie chez moi.
Aïe.
Donc là, finalement, personne n'était blessé. C'était assez incroyable parce que je rentre du boulot le soir et je vois que la rue était fermée, qu'il y avait police, qu'il y avait les voisins dehors, les pompiers, etc. J'ai dit, oh, pourvu que ce ne soit pas mon immeuble. Et je m'approche et oui, c'était mon immeuble. Et puis j'ai dit, pourvu que ce ne soit pas mon appartement. Mais en fait, oui, quand je rentre, Oui, j'arrive et les pompiers venaient de tout éteindre. Ça faisait à peine un mois que j'étais installée dans ce nouvel appartement. Et je vois que tout était réduit en cendres, finalement. Et donc, c'est très impressionnant. Je le souhaite
À
vraiment à
personne.
personne. Mais en même temps, c'était une impression que je pense que j'oublierai jamais. Le fait de dire, ben voilà, je suis vivante et je m'aime moi. Et donc, ça veut dire que si je m'aime moi, j'ai tout ce qu'il faut.
Faut quand même une certaine énergie parce que c'est vrai qu'on s'attache. Tu me diras, moi je dirais, quand tu le vois de l'extérieur, tu te dis bon, ben c'est que des biens matériels. Mais le problème, c'est que ça fait partie de ta vie, c'est-à-dire c'est des souvenirs, c'est des objets, des liens émotionnels qu'on a avec son intérieur. Mais au final, ton approche, et je pense que bon, il faut un certain temps pour chaque personne à se dire bon, au final, je suis vivant, il m'est rien arrivé, c'est que du matériel. On peut recommencer, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Ou est-ce que c'est ce déclic que tu as eu de suite? Après, c'est le mindset qu'on a chacun, c'est-à-dire, bon, ok, ça fait rien, même si certains, tu peux te laisser abattre en disant, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir et tout. Comment tu as réagi sur le coup? Je
Ben,
suis.
honnêtement, oui.
Ah ouais, ok.
De suite, c'est quelque chose qui m'est venu. Mais après, quelques minutes après, pas trop longtemps après,
Non?
j'étais en choc. Parce
Bien
que là,
sûr.
il fallait voir avec la police où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce
Ouais.
que je fais. Ben, du coup, il faut que je cherche mon passeport. Je n'ai rien que ce plus que ce que je porte sur moi. Et
Ouais.
du coup, tu commences à penser à toutes les petites choses pratiques.
Ouais.
Tu vois, même une brosse à dents, tu vois,
Ouais, c'est des
y a
trucs de
plein de
base,
petits
ouais. Ouais.
trucs. Mais tu vois, ça s'est venu quelques instants plus tard. Au début, là, le premier choc, je te dis, c'était vraiment de me dire, waouh, ok, maintenant je viens de me libérer du matériel, mais je mets toujours moi. Et c'était très rassurant. Mais quelques instants plus tard, quand il fallait que je pense à la praticité de
Ouais.
la situation, là, j'ai commencé vraiment à paniquer un peu parce que tu te dis, waouh, mais il faut même penser à la brosse à dents,
Ouais.
à tes vêtements, tout, quoi. Où est-ce que je vais passer la nuit en plus, non?
Ouais.
Et donc voilà, alors c'est quand même assez fort. Et puis, pour l'anecdote, c'était la veille des attentats à Paris de Charlie Hebdo.
Ah ouais.
Le lendemain, c'était janvier, et c'était en 2015, c'était le 7 janvier, le lendemain, et du coup, t'avais les sirènes partout, je me souviens que s'il faisait hyper gris, comme quoi, comme je te dis, les couleurs en noir
Ouais, les
toujours
couleurs sur le
et tout.
mental.
Et
Ouais.
je me disais, oh là là, je me suis trompée de film, là, est-ce que je peux
Ouais,
changer de salle?
je vais me réveiller, je suis dans le mauvais rêve, je vais me réveiller, je repars au Mexique. Non, c'est
Ouais.
peut-être, tu vois, je me réfugie au soleil, j'en sais rien, c'est, ouais, c'est chaud,
Et
quoi.
puis. Ouais, et puis bon, ben, du coup, mais il fallait que je me ressaisisse, en
Ouais.
fait, parce que la vie continue.
Exactement.
Et donc, non seulement, comment dire, il fallait que je recrée une vie, mais il fallait déjà bien fermer ce cycle, parce que tu t'imagines pas toute l'administratif qu'il y a avec un incendie
Ouais,
et tout
les
ce qu'il faut faire.
assurances, les ceci, oh
Heureusement,
là
j'avais très bonne assurance et j'ai eu un très bon expert qui m'a expliqué qu'il y avait des incendies comme ça tous les jours à Paris, ce qui est un peu effrayant, mais bon. Bref, et du coup, bon, en fait, pour parler plus de l'important de cette expérience, c'est que à ce moment-là, comme j'avais dit, j'avais perdu tous mes vêtements. Il y avait que les vêtements noirs qui étaient récupérables parce que la suie qui est noire, ben, tu la vois pas sur les tissus noirs, donc les seuls vêtements qu'ils pouvaient récupérer, c'était les noirs.
Oui.
Et quand j'avais vu mon appartement tout au noir, en cendres et tout, tous mes livres, tout, en fait, c'était. Oui, ça fait du mal, hein, je ne veux pas le nier. Je ne pouvais plus voir des vêtements noirs. Et donc, je devais m'acheter des nouveaux vêtements. Donc, j'allais dans les boutiques. Et je pouvais pas m'empêcher d'aller vers les couleurs qui sont plutôt dorées, les beiges, les couleurs plus.
Plus
Bah,
solaire.
bon, après, je pourrais. Plus solaire, oui. Et c'est des couleurs que, pour l'anecdote, ne me vont pas du tout. En fait, ça me donne un teint plutôt jaunâtre et tout. Mais j'avais tellement besoin
Oui.
parce que ce sont des couleurs qui me font du bien.
OK.
Et donc là, avec tout ce que je t'avais expliqué un peu de ce que je travaille sur les couleurs, que j'ai continué à travailler et tout ça, j'ai eu un déclic pour comprendre qu'il y a une différence entre les couleurs qui te vont et les couleurs qui te font du bien. Et ça ne veut pas dire que tu dois juste porter et t'entourer que des couleurs qui te représentent, en fait, qui vont avec ton teint, etc., ta luminosité. Mais en fait, dans notre monde, il y a une multitude de facettes qui sont toutes reliées les unes avec les autres. C'est-à-dire que toi, tu viens apporter quelque chose au monde. En tout cas, moi, je crois qu'il y a ça. Tu viens apporter ta propre expérience parce que chaque vie est unique et elle a quelque chose à apporter à ce monde. Mais aussi, tu as besoin de te ressourcer, donc de recevoir. Et par rapport aux couleurs, les couleurs que tu portes, c'est ce que tu apportes au monde. C'est comme ta deuxième peau, en fait. C'est ce que une extension de toi-même, ce que tu viens contribuer dans ce monde, mais aussi ce qui te fait du bien, tu as besoin pour te ressourcer, pour t'entourer, pour créer une harmonie, parce que sinon tu te satures. Je parle aussi des éléments parce que je me base sur ça, parce que c'est le plus simple, le plus direct, c'est la nature, non? Si par exemple tu aimes l'eau, mais tu es tout le temps dans l'eau, tu vas saturer, parce qu'en tant qu'être humain, tu as besoin aussi de la terre et du soleil et de l'air. Et donc, il faut créer cet équilibre, mais savoir comment l'agencer, en fait, pour ta propre personne et ta propre vie. C'est là où il y a la magie, en fait, de ça. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à développer de plus en plus ma méthode et ce que je fais aujourd'hui. Et grâce à cet incendie et cette expérience que j'ai vraiment vécue en chair et en os.
Les expériences de vie, qu'elles soient, on va dire, positives ou on va dire extrême, parce que c'est une expérience extrême, hein, façonne aussi ton parcours et peut-être sont aussi des déclics pour aborder des sujets qui te tiennent à cœur et qui sont liés à ta personnalité, à ton vécu intrinsèque, quoi. Et c'est ce qui est normal, c'est les expériences qu'on a vécues dans la chair qui conditionnent aussi un peu comment tu interagis avec le monde autour de toi. Donc à partir de ce moment-là, tu es revenu sur cette approche-là des couleurs qui t'entoure, des éléments pour travailler un peu pour faire ton approche de ton atelier. C'est vrai qu'on a fait un épisode très long, chers auditeurs, j'espère que vous nous suivez encore jusqu'à maintenant, parce que Michel a vraiment beaucoup de thématiques, mais je pense que c'est intéressant de dérouler toutes ces approches, parce que c'est tout ce que tu as vécu, en fait, tu l'as intégré dans ton projet qui est le travail sur la personnalité et la nature. C'est bien ça, à travers les couleurs, hein.
Oui, exactement. Et puis, c'est le mot qu'on pourrait utiliser en termes de business, c'est capitaliser ton vécu, capitaliser ton expérience. Et à un niveau plus ample, c'est lui donner un sens, en fait. C'est-à-dire maintenant, parce que j'ai vécu ça, et par rapport au choix que j'ai fait comment dire, du sens que j'ai donné à ces expériences, maintenant, je peux aussi accompagner d'autres personnes qui vivent différentes situations de vie, de grands changements, ou des fois, tu n'as pas besoin d'un incendie ou de quelque
Non,
chose de très fort
mais des phases de vie.
pour recréer, oui, pour te remettre en question et vouloir renouveler ta vie, en fait. Et s'il y a une chose qui a été constante dans ma vie, c'est le changement. À un moment donné, je disais, non, mais j'en ai marre des déménagements et de recommencer tout. Et après, je me suis rendu compte que c'est une chance parce que finalement, à chaque jour et à chaque instant, tu as l'opportunité de te renouveler. Et on est en constant renouvellement. C'est pas, c'est, en fait, tu vois, là, par exemple, en termes de business, on cherche toujours la croissance. Et quand je travaillais dans les grands groupes, etc., c'est toujours la croissance, la croissance. Et si tu observes la nature est toujours en expansion. Ce n'est pas la croissance infinie. Ce n'est pas un arbre qui grandit 10 cm toute la vie, mais il est toujours en expansion. Et pourquoi la nature est en expansion? C'est parce qu'il y a aussi des cycles. Des cycles qui te permettent de lâcher, de récolter ce que tu as semé. En fait, il y a la sagesse de la nature qui nous montre tous les jours et dans les saisons et dans les cycles, etc. Et nous, on fonctionne aussi comme ça, sauf que des fois, on se coupe
On se
de ces
déconnecte de la
cycles,
nature. De la nature, mais
de notre nature.
c'est notre nature.
Ouais.
Alors, je pense que c'est génial d'aborder ça, tu vois. J'ai des thématiques qu'on aborde aujourd'hui avec toi qui sont passionnantes. Et c'est vrai que j'aime bien le lien que tu fais, puisqu'en plus, ça donne une certaine crédibilité. Tu as travaillé dans des grands groupes où, dans le luxe, c'est toujours la course à la croissance, jusqu'où on ira, bien qu'il y a des mouvements où on se dit non, en fait, cette croissance n'est pas infinie. Est-ce que peut-être le développement. Regarder les cycles de nature, s'adapter. Et j'aime bien que tu viennes apporter ces thématiques parce que je pense qu'on en a pas, on l'a pas abordé. Et c'est bien ça, de remettre, de pas oublier, on est un élément de la nature et de se dire que ben, il y a des phases de croissance, il y a des phases d'hibernation, de nouvelles orientations, comment on évolue. Et donc c'est un peu sur tout ce vécu que tu as eu. Quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, tiens, maintenant je suis à mon compte, j'accompagne les gens un peu coaching où je les accompagne à leur changement, c'est ça? Est-ce que c'est un peu ça ton nouveau métier, si je peux
Oui,
dire?
alors en fait, je pense que c'est l'instinct qui est l'élément déclencheur. Parce que justement, tu sais, quand tu n'as plus rien, mais vraiment plus rien qui te reste, plus ce que tu portes, c'est là où tu te dis, voilà, maintenant, j'ai tous les champs des possibles. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui s'est passé, etc. Et du coup, je me disais, ce que je veux faire, c'est vraiment partager ce que j'ai vécu, ce que je sais avec d'autres personnes pour que ça puisse les aider, en fait. Et aussi parce que, plus que, si tu veux, c'est pas que je dise, bon, il faut aider les personnes, mais c'était surtout, je me disais, mais je voudrais vraiment que tout le monde puisse rayonner, vraiment rayonner sa propre nature et qu'il n'ait pas besoin de se conformer aux dictats de la société, de la monde, ou peu importe, qu'ils se referment ou qu'ils vivent dans la peur, ou, tu vois, c'était surtout ce côté plus de donner cette possibilité à tout le monde, ou les personnes qui le veulent, non, évidemment, mais de rayonner, de vraiment pouvoir être pleinement toi, c'était surtout ça. Parce que, tu vois, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas des gros soucis, qui normalement ont tout ce qu'il faut dans la vie, leur
Leur
famille, leur
boulot, leur
maison, leur
machin.
travail, etc. Et ils sont pas épanouis. J'avais une personne qui me disait, mais je sais pas, et j'aurais rien à me plaindre, mais je suis pas bien, je suis pas contente dans ma vie. Parce que, justement, il te manque cette connexion à ton essence, à ta vraie nature, pour pouvoir l'exprimer.
Mais
Puis vraiment s'exprimer et rayonner.
est-ce que ça veut dire que du coup, bon, tu as eu l'incendie, tu travaillais encore dans des grands groupes de luxe et de produits, mais du coup, tu as tout plaqué d'un coup ou comment ça s'est passé? Ou
Ah
ça a
non,
été...
en fait, non, c'était progressif parce que j'allais justement quitter Paris et rentrer au Mexique pour
Ok.
faire ce dont je te parlais. Et puis finalement, on m'a contacté de L'Oréal et on m'a proposé un poste qui avait l'air très intéressant. Et du coup, ben, j'ai accepté. Donc, j'ai repris le poste chez L'Oréal qui était aussi toute une expérience très, très formatrice et intense. Et en travaillant chez L'Oréal, on m'a contacté de chez Dior. Et puis finalement, j'ai changé à nouveau chez Dior. C'est une marque que j'adore et tout. Et du coup, je pense que je savais à l'époque, je me disais, bon, je fais ça encore parce que j'ai une grande passion, tout ce qui est le retail, ça l'est toujours. Le temps que je commence à développer
Ton
mon
projet.
propre business, mon propre atelier. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, à un moment donné, les circonstances ont fait que puis négocier mon départ et voilà et me lancer dans l'entrepreneuriat et comment et puis même si dans l'entrepreneuriat au début je voulais surtout me focaliser plus dans ce côté de la personne, j'avais très très envie de travailler avec la personne, les choses ont fait que je n'ai pas lâché non plus le retail. Donc je travaille toujours encore pour les marques et je créer du rebranding, du branding, du retail design, du visual merchandising. Et j'adore parce que vraiment là, j'ai quelque chose que j'aurais jamais imaginé, mais parce que tu t'ouvres aux possibilités, les possibilités arrivent. Donc, je travaille sur vraiment tout ce que j'aime, donc les personnes avec leur unicité et particularité, et aussi les marques pour créer des espaces et des environnements ou transmettre l'essence, l'identité d'une marque.
Donc ça veut dire que tu t'es mis à ton compte pour continuer à faire le travail, mais en tant qu'indépendant, et en parallèle, ton activité de travail sur la personnalité au travers l'environnement de la personne, l'environnement qui est autour d'une personne, c'est ça?
Oui, alors en fait, c'est moi je l'ai englobé dans le fait de rendre visible l'identité aussi des marques ou des espaces. Finalement, ça englobe, ça résume tout mon parcours, mon expérience et aussi mes grandes passions en fait. Et donc, je l'ai englobé dans cette vision et moi je l'appelle l'architecture de l'être parce que ce soit pour les marques ou les espaces. Le fait de le processus créatif d'architecture, comme je te disais tout à l'heure, qu'il faut qu'il soit solide, qu'il tienne dans le temps, donc il faut qu'il y ait quelque chose de structurel, rationnel, mais aussi toujours lié à l'émotion, à ce ressenti. Oui, donc là, tu l'as dans les espaces, dans les marques, et pour les personnes. Et les personnes, ça peut être leur image, comment ils vont s'habiller, mais aussi comment ils vont aménager leurs espaces ou comment aussi. Si j'accompagne des entrepreneurs pour faire leur propre branding et se positionner, se redéfinir, redécouvrir leurs valeurs pour la mettre au service du monde, en fait.
D'ailleurs, c'est tout un programme, donc du branding personnel, de l'image de marque, puisque c'est ça aussi, hein, d'une personne. C'est pour, tu accompagnes quelqu'un qui va être entrepreneur dans quelque chose d'artistique, de pouvoir refléter, on va dire, son côté artistique ou son environnement dans la manière de s'habiller, dans la manière de se présenter, dans la manière de présenter son site internet, j'imagine, ou tout l'ensemble, quoi. Donc c'est ce que tu fais à travers ton atelier, c'est ça? Je suis désolé, Michel, le sujet est super passionnant, mais on a presque 1 heure d'enregistrement. J'espère que nos auditeurs nous suivent jusqu'à là. Donc ça veut dire que maintenant tu as cette activité à ton compte. Peut-être nous donner un peu le comment on appelle ça, les coordonnées. Comment tu fais ça? Est-ce que tu fais ça que en France ou est-ce que tu fais ça un peu partout dans le monde? Comment tu fonctionnes là-dessus?
Je suis moins basée à Paris, mais je travaille avec le monde entier, littéralement. Donc, vous pouvez me trouver dans mon site qui est en renouvellement et je pense qu'il sera prêt en juin 2023, prochain. Et donc, c'est www.atelier33montaigne.com. Et donc, là, je propose mes services pour les marques ou pour les personnes. Et donc pour les personnes et aussi pour les marques, je travaille en anglais, en français, en espagnol selon les demandes. Et pareil pour ce qui est l'accompagnement, le coaching, je fais des ateliers ou des programmes de groupe selon aussi les besoins de chacun. Et donc voilà.
Ok, c'est génial. Tu le fais pas en allemand? Non, c'était un petit clin d'œil.
Oui, ben là je pourrais, mais mon allemand il est un peu poussiéreux. Oh, c'est bon.
Poussière. Ouais, ça fait rien. C'est déjà pas mal en français, en espagnol et en anglais. Je pense que tu couvres une sacrée palette de clients et de profils. Donc c'est vraiment passionnant. Michel, moi je resterai encore enregistré avec toi parce que je trouve que tu apportes des thématiques, des sujets super intéressants, qu'en fait on ne considère pas toujours. On associe souvent les sujets que tu as abordés au luxe, mais en fait non, pas nécessairement. C'est aussi l'image de la personnalité, la thématique, le lien à la nature, l'impact avec les couleurs. Enfin, vraiment impressionnant. Est-ce que tu as un conseil? Parce que moi j'aime bien finir là-dessus pour nos auditeurs. Comment j'appelle ça toujours? Un conseil pour la route pour les entrepreneurs ou les gens qui se cherchent.
Oui, alors en fait, j'aimerais dire à chacun et chacune des personnes qui nous écoutent que vous êtes unique, vraiment. Je sais que c'est très répété partout maintenant, mais vraiment, vous êtes unique. Vous seul, vous pouvez apporter une chose très spécifique au monde, dans cette vie, dans cette expérience de vie. Et il suffit juste de l'accueillir et de se permettre de se recréer pour s'ouvrir au champ des possibles et vivre surtout en expansion. Et vivre en expansion, c'est aussi pour moi vivre en harmonie avec soi-même, avec qui on est. Donc, être en sérénité, en fait, moi, je propose aux personnes que j'accompagne, je leur propose pas de trouver le bonheur, mais de trouver la sérénité à tout moment, parce que la vie est faite de moments qu'on ne peut pas contrôler, qui sont plus ou moins agréables. Et l'important, c'est de rester connecté à soi-même dans cette sérénité qui te permet justement de faire les bons choix, d'aller de l'avant ou de faire ce qu'il faut faire, non? Mais surtout de savoir qu'on a ce droit inné à vivre pleinement. Et c'est ce que j'aimerais que les personnes se donnent ou récupèrent ce droit de naissance, en fait.
Écoute, c'est génial. Moi, je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Je fais juste un petit rappel de tes coordonnées pour pouvoir te contacter. Donc, on a dit le site atelier 33, donc le chiffre montaigne.com. On peut te retrouver aussi sur LinkedIn. Ça, on le mettra aussi sur le site. Et si on a envie de voir un peu ce que tu publies, je crois que sur Instagram, c'est pareil. C'est donc atelier.33 montaigne. Écoute, Michel, merci beaucoup de ta participation. Un épisode en version très longue, ça fait rien. Je pense que je voulais pas t'interrompre parce que je trouve que, enfin moi, je trouve les sujets que tu as abordés super intéressants. J'espère que vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous nous avez suivis jusqu'à là. Et je vous dis à tous et à Michel, merci à toi et à bientôt.
Merci à toi, Joe. À bientôt. Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode avec Michel Beltran de Atelier 33 Montaigne vous a plu. J'espère que vous avez appris énormément de choses comme moi sur l'image de marque, le rôle des couleurs dans notre environnement et du développement personnel. Pour petite information, cet épisode avait été enregistré au mois de mai 2023 et c'est vrai qu'il y a eu entre-temps la période d'été, donc une diffusion un peu plus tard. J'espère que Michel, tu nous excuseras de ce petit délai et vous, chers auditeurs, j'espère que vous en profiterez au maximum d'écouter cet épisode. J'en profite aussi pour vous inviter, chers auditeurs, si vous découvrez ce podcast ou si vous êtes un fidèle auditeur ou auditrice, de mettre sur les plateformes d'audio stream que vous utilisez soit des commentaires, soit mettre 5 étoiles, je pense que c'est sur Apple Podcast. Ça permet à des nouveaux auditeurs de nous trouver plus facilement et c'est aussi très agréable de voir que notre travail, enfin mon travail au fond de ma cave, est apprécié par vous. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur YouTube aussi puisque on diffuse aussi ce podcast sur YouTube ou aussi en mettant un article, un petit texte dans un commentaire dans le blog associé à chaque article, c'est monsieurjoel.blogspot.com. Voilà. J'en profite aussi pour inviter à faire un appel à des candidats qui veulent se prêter au jeu de, comme Michel, venir participer, de partager leur parcours d'entrepreneur, leur parcours de vie, leurs expériences, ou créateurs de sociétés ou de start-up, de venir nous parler un peu de leur cheminement professionnel et personnel, et surtout peut-être apporter de l'inspiration pour ceux qui se cherchent ou qui ont envie d'apprendre de nouvelles approches pour peut-être se lancer être entrepreneur. Donc n'hésitez pas à me contacter par LinkedIn, je suis assez réactif dessus, en me cherchant, vous pouvez me trouver dessus, c'est écrit en bas de l'article si vous voulez, ou en mettant des commentaires, je pense qu'on se met en contact très rapidement. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. C'est toujours sympathique de découvrir toujours des profils différents et variés. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.